Chers auditeurs et auditrices de FM+, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle brève rencontre. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un homme dont on connaît pas mal de choses. Il y a eu énormément de représentations. Cet homme, c'est Jonas. Jonas, qui est un prophète. Prophète qui a un livre, c'est pas le cas de tous les prophètes. Le livre de Jonas donc, se situe dans l'Ancien Testament et fait partie de ce recueil qu'on nomme les 12 petits prophètes. Bon, ils n'ont rien de petit en fait, mais c'est parce que les récits sont plus courts. Mais en tant que morceau de littérature, ce livre est un genre tout à fait différent des autres prophètes. L'histoire est brève, enlevée, 4 petits chapitres lus en moins d'un quart d'heure. Alors que les livres des prophètes sont essentiellement des recueils d'oracles, de ce qu'on appelle des prophéties, Jonas nous raconte les aventures d'un homme, un prophète qui se nomme Jonas donc, qui commence par se dérober à la mission qu'il a reçue de Dieu. Nous avons affaire bien plus à un récit, une nouvelle, une sorte de conte biblique qui oscille entre tragédie et comédie. Mais Jonas, c'est avant tout une histoire porteuse d'enseignement. Et quelle est donc cette histoire? La plupart d'entre vous connaissent le début. Elle fait partie de ces histoires bibliques que l'on nous a racontées et que, à notre tour, nous contons aux enfants. Et si cette histoire est connue, c'est avant tout par le séjour de Jonas dans le ventre de la baleine, ou plutôt du poisson, et même de la poissonne. Puisque dans le texte, il n'est pas question de baleine, mais le poisson peut être mis au féminin, et nous verrons que ce n'est pas anodin. Mais le développement de l'histoire est moins connu, car la parole divine va rattraper Jonas, qui avait essayé de fuir. Elle va le conduire finalement à Ninive, là où il ne voulait pas du tout aller. Jonas déjà, alors, comme chaque fois, je vais vous donner un peu l'explication de son nom. Jonas est hébreu, comme il se présente lui-même. Il est le fils d'Amittai. C'est ce qui nous est dit dans le livre de Jonas, que je vous invite d'ailleurs à lire. Son nom fait que l'on assimile souvent un prophète mentionné dans le livre des rois, prophète qui aurait vécu sous le règne d'un certain roi Jéroboam II vers 783-743 avant Jésus-Christ, à une époque où le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, était menacé en tant qu'État et devait se battre contre son grand voisin assyrien, qui, après avoir infligé des défaites, devait prendre la ville de Samarie vers 722 avant Jésus-Christ. Mais le déclin politique d'Israël correspond également à un déclin religieux, et le peuple se livre souvent à des cultes idolâtres. Que l'on assimile l'auteur du livre de Jonas à un prophète qui lui est antérieur d'au moins 2 siècles est assez significatif, car Ninive, à cette époque-là, est la capitale de l'Assyrie, où Jonas va être envoyé pour prophétiser. Et c'est vraiment une ville d'un ennemi très ancien et très puissant. Elle symbolise à la fois l'idolâtrie, l'injustice sociale, en fait tout ce qui est épouvantable. Il faut encore préciser donc que Jonas signifie « colombe » en hébreu. La colombe, ça évoque, bon, l'Esprit Saint, mais on n'en est pas encore là au niveau de la lecture biblique. Elle évoque certes l'oiseau lâché par Noé, qui revient annoncer la fin du déluge, la feuille d'olivier dans son bec. En cela, elle est symbole de ce qui relie le ciel et la terre. Et c'est exactement là le rôle du prophète, relier Dieu à son peuple. C'est aussi, il faut le reconnaître, et c'est ce qui nous est dit dans le livre d'Osée au chapitre 7, un animal stupide par excellence. Donc on voit que dans son nom même est inscrit une certaine ambivalence, et l'homme n'en manque pas. D'autant qu'il est fils d'Amittai, ce qui signifie « Dieu est vérité, Dieu est fidélité ». Donc, nous voici donc avec ce Jonas Colombe, fils de Dieu et vérité. Un homme donc plongé dans l'histoire difficile de son temps. Une histoire personnelle qui va l'amener à une découverte personnelle. Qui est ce Dieu de vérité? Comme les autres prophètes bibliques, Jonas reçoit un appel, une mission à accomplir de la part de Dieu. Jonas est donc, comme on dit au chapitre 1 de ce livre de Jonas, il reçoit un appel, il est envoyé chez l'ennemi héréditaire pour faire entendre à ses oreilles le cri de Dieu. « Car, nous dit-on, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Bon, la méchanceté de Ninive. L'ordre est bref, il est concis, la fuite est immédiate de Jonas pour nous alerter sur l'importance et la gravité de cette décision divine. La suite de Jonas n'est pas une simple désobéissance. Elle traduit un dilemme fondamental devant la parole de Dieu. Et la désobéissance de Jonas s'accompagne de sa descente inexorable. Alors là, il y a quelques jeux de mots dans le texte qui ne manquent pas d'humour, puisque Dieu lui demande de monter vers Ninive, et que voilà notre Jonas qui descend de plus en plus. Il descend vers la mer, il descend au fond du bateau pour se terminer, pour tout ça pour terminer dans le ventre d'un poisson, tout au fond de la mer. Jonas, par son attitude, va se retrouver au fond du fond. Il descend à Jaffa, au fond du bateau, au fond du ventre, au fond de la mer. Il faut comprendre que Jonas prend tout à fait au sérieux la parole de Dieu. Pour lui, lorsque Dieu a parlé, rien ne peut l'infléchir. Peut-être est-ce aussi le sérieux de cette attitude qui va être dénoncée. Il est tellement attaché, collé à des images de Dieu, de sa mission, qu'il est incapable de prendre du recul. Et c'est donc par une dose d'humour que tout va se décoincer. Et dans notre récit, l'ironie principale est le décalage entre la réaction du prophète, qui fiche le camp, et celle des païens, représentés ici par les marins, ceux qui comprennent bien mieux que lui, le juif, eh bien, qu'il faut le jeter à la mer. On va retrouver ça souvent dans les évangiles. Le dilemme de Jonas le rend muet devant Dieu, le porte à la fuite, le conduit même à choisir la mort plutôt que d'assumer sa mission prophétique, puisque c'est lui-même qui demande aux marins de le jeter par-dessus bord, les marins ayant compris que le problème venait de Jonas. Le dilemme des marins les conduit à la parole et à la prière. Et comme ils choisissent la vie et non la mort, ils jettent finalement Jonas à la mer. La scène se termine par une offrande à l'Éternel, ça ne manque pas non plus d'humour, car les païens demandent pardon pour le geste qu'ils viennent de faire. Et ce n'est qu'en désespoir de cause et en s'adressant à Dieu que Jonas, pour obtenir son absolution, qu'il jette finalement Jonas à la mer. Mais Jonas ne manque pas ici d'un certain panache. Il accepte son sort. Et c'est une chance. Il va découvrir le vrai visage de Dieu. Et c'est au fond du fond, au fond de la baleine, que Jonas va crier et que Jonas va prier. Parce qu'au chapitre 2, il y a un magnifique psaume, une prière de Jonas. Il peut d'ailleurs paraître étonnant de trouver au sein d'un récit, finalement, si enlevé, un psaume, une prière. Faites l'expérience, vous pouvez lire le récit de manière continue, lisant le chapitre 1, puis hop, vous sautez directement au chapitre 3 et au chapitre 4. Le reste, tout ça reste fluide, compréhensible. Mais en réalité, comme bien des choses qui, dans une logique productiviste, peuvent paraître superflues, voire gênantes, il me semble que ce psaume, ce chant, est probablement le cœur de ce petit livre prophétique. Un chant qui donne une tonalité à l'ensemble de cet écrit prophétique. Et voici quelques extraits de ce chant. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, tu m'as écouté. Tu m'as jeté dans un bas-fond, cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux. On entend toute l'angoisse qui saisit, qui assaille notre homme. C'est dans le ventre de ce poisson, dans ce lieu de confinement, que notre petit Jonas va faire une expérience primordiale. Au cœur même du Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts dans la tradition hébraïque, Jonas trouve la vie. Ce ventre de tombeau se transforme en matrice. Et d'ailleurs le texte nous le dit, puisque il nous est dit au verset 2 du chapitre 2, « Jonas, dans le ventre, ou la matrice, de la poissonne. Ici, il s'agit bien d'un poisson femelle, pris vers Dieu. La prière de Jonas s'inscrit dans la tradition de la prière biblique. Il se trouve dans une situation inédite, au cœur de sa détresse, il parvient à dire sa douleur. Dans des mots très personnels, l'aveu de son insécurité totale, coupé de ses repères culturels, lui confère une dignité, une épaisseur qu'il n'avait pas avant et qu'il ne retrouvera d'ailleurs plus. Il est dans la simple reconnaissance de ses limites, de ses failles. Ça nous invite d'ailleurs, nous-mêmes, ça nous rejoint nous-mêmes à être dans la simple reconnaissance de nos limites, de nos failles. C'est ce psaume d'ailleurs qui sauve Jonas dans ce récit. La prière rend la suite possible. Au fond du ventre, il est coupé de tout, des autres, de la vie, de Dieu, mais en priant, il va rester en relation malgré tout, contre tout, par sa supplication, il dialogue avec Dieu. Et Dieu se souvient, Dieu répond. Jonas, par la prière, part à la rencontre de Dieu. Oui, mais de quel Dieu? Ou plutôt, quelle image de Dieu a-t-il encore à la sortie du ventre, puisqu'il va être rejeté sur la plage? Dieu a été compatissant pour lui. Il s'est montré le Dieu de tous les renoncements, de tous les retournements. Jusqu'où Jonas est-il capable d'aller pour les accepter? C'est un peu la question à laquelle tente de répondre la suite de l'histoire, que nous entendrons après une brève pause musicale. Alors, notre Jonas a été rejeté sur la plage et voici qu'il part une seconde fois. Et que, parce que Dieu lui dit, c'est ce qui est dit au chapitre 3, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris vers elle la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se lève, il va à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville, de 3 jours de marche. Vous imaginez la taille de la ville. Jonas commence par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et dans la suite du récit, on apprend que le roi lui-même demande à tout le monde de prendre le deuil, de se couvrir de sacs, de cendres. Et puis Dieu, donc, vit qu'ils agissaient ainsi. C'est ce que nous dit la fin du chapitre 3. Et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Tout semble donc recommencer puisque le récit repart avec le même ordre du Seigneur. Debout, debout, part vers Ninive, la grande ville. Mais il y a un petit détail. Et vous savez, parfois, c'est dans les détails que l'on peut trouver du divin. C'est dans le détail que Dieu peut se dévoiler. Le lecteur attentif, c'est un peu compliqué, il faut même parfois comprendre l'hébreu, mais la proclamation n'est plus contre Ninive comme au chapitre 1, mais vers Ninive, comme si cette proclamation est quelque chose qui doit aller vers et qui nous invite à aller de l'avant. Alors l'histoire du grand poisson est un peu difficile à avaler, hein, j'en conviens, ça me fait même penser à Pinocchio, mais bon. Mais l'épisode alors de la quick conversion des Ninivites l'est encore plus. On croit rêver. Comment une telle histoire est-elle possible? Quelle est sa crédibilité? Mais derrière ces invraisemblances qui nous semblent presque plus relevées du genre tragicomique que de la littérature biblique, se pose une question profonde. Qui peut se convertir? Eh bien la réponse ici est assez étonnante. Elle était déjà un peu amorcée avec les marins. Ce sont les Ninivites, ici des païens, qui plus est des idolâtres, des mécréants, des étrangers qui vont reconnaître le Dieu d'Israël comme vrai Dieu. On retrouve là l'universalité du message de Dieu. Et c'est ça, en cela, que le livre de Jonas est formidable. L'universalité du message de Dieu que nous avions déjà rencontré avec les marins et que l'on va rencontrer tout au long de cet Ancien Testament, finalement, qui est beaucoup plus ouvert que l'on peut le penser. Mais ici donc, ce sont les habitants de Ninive, jusqu'au roi, qui vont faire des sacrifices. Car en effet, la conversion, ce retournement complet, nécessite des sacrifices. On passe d'un système à l'autre, d'un système à l'autre sans dommage ni difficulté. Ça, c'est quelque chose vraiment qui nous rejoint, nous, qui sommes, peu importe, étrangers, pas étrangers. Mais en réalité, la conversion, ça demande quand même des sacrifices. Alors, pas des veaux, pas des colombes, peu importe, mais au contraire, des choses qui, dans nos vies, vont nous coûter quelque peu. Et ensuite, cette histoire nous dévoile un Dieu bien autrement que l'image de Dieu qui est encore celle de Jonas, ou bien l'image que nous pouvons en avoir bien souvent. Qui est Dieu? C'est vraiment ce qui est au cœur de notre récit. Qui est ce Dieu? Ce Dieu finalement universel. Ce Dieu dont on nous dit qu'il regrette. Finalement, il regrette, il change d'avis. Bon, c'est pas comme ça qu'on imagine Dieu. Ben si, il change d'avis parce que ils ont demandé pardon. Et cette attitude de se reconnaître pécheur, c'est-à-dire de reconnaître nos failles, de reconnaître nos manques, de les présenter à Dieu, de lui faire confiance et de lui dire « avec toi, eh bien ces failles, ces manques peuvent être comblées. Je ne peux pas, moi, toute seule, les combler. » Eh bien, cette attitude fait que Dieu entend, que Dieu écoute, que Dieu pardonne. Et là, on a vraiment une image très importante qu'on retrouve dans notre protestantisme de l'homme pécheur et de l'attention avec le pardon de Dieu. Nous sommes à la fois des pécheurs et pardonnés. C'est exactement ce qui se passe. Ici, Dieu ne juge pas, il n'annonce pas la destruction, il y a même les méchants vont s'en sortir finalement. Et lorsque nous lisons et que nous laissons prendre par l'histoire, nous attendons peut-être avec une impatience un peu malsaine les conséquences de l'annonce de Ninive. Et on risque même de se réjouir d'avance des effets spéciaux sur les sensations procurées par la juste vengeance de Dieu vis-à-vis des méchants. C'est un peu l'attitude de Jonas. Mais c'est là, à mon avis, une compréhension fondamentalement inadéquate de Dieu et de ses desseins. Car si l'échec et la fuite de Jonas nous a appris que Dieu est intraitable sur l'exécution de sa volonté, nous sommes en droit de penser que l'oracle porté par le prophète sera suivi des faits. Et pourtant, qu'il va être détruit, 40 jours et vous serez détruit. Et pourtant, rien du tout. Que nenni. En effet, Dieu regrette et Dieu pardonne. C'est assez étonnant, c'est assez drôle d'ailleurs, dans une scène tout à fait comique et touchante. Imaginez toute la population jusqu'aux animaux recouverts de sacs. La ville pécheresse se met sans dessus dessous. Les Ninivites qui se sont détournés du mal, eh bien maintenant, Dieu vont revenir vers Dieu. Et Dieu va se détourner du mal qu'il avait prévu pour eux. Ainsi, l'arrivée des identités sont modifiées. Le Dieu vengeur devient miséricordieux. Mais voilà, Jonas ne peut l'accepter. Et il y a un chapitre 4 qui est tout à fait étonnant. Jonas devrait se réjouir finalement. Ça a fonctionné, son annonce. Mais pas du tout. Jonas est en pleine dépression. Pourquoi il est en pleine dépression? Parce que certes, il avait la foi, mais la découverte d'un Dieu de compassion vient l'éprouver. Il vient l'éprouver et nous interroger aussi. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à accepter ce Dieu d'amour, de compassion, non seulement pour nous, mais pour les autres? Pour les autres que nous aimerions tant condamner, pour les autres qui nous condamnent. En fait, il y a là toute une réflexion sur les images de Dieu que nous pouvons avoir. Alors dans la Bible, il y a plusieurs images de Dieu. Parfois, en effet, il est un Dieu qui juge, ou tout du moins qui est là pour nous donner des limites et nous montrer que lorsqu'on dépasse les limites, eh bien, il y a quelque chose de forcément mortifère qui arrive dans notre existence, dans la société. Mais il y a aussi un Dieu qui aime les humains, tous les humains, et qui nous invite à l'accepter et à faire pareillement. Sommes-nous également capables d'aimer nos prochains et nos lointains? Sommes-nous prêts à mettre cette exigence au cœur de nos préoccupations? Sommes-nous prêts à ne pas sombrer dans la dépression comme Jonas et accepter ce Dieu d'amour qui parfois nous semble injuste? À très bientôt.